Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
À chaque époque, son escroc. À la fin du siècle dernier, en pleine crise du chômage, l'homme qui berne tout un village parle d'embauche, d'expansion, de construction, d'un chantier ambitieux, de gros travaux. Il s'appelle Philippe Bert, mais il se fait appeler Roger Martin. Il débarque un jour à Saint-Marceau, dans la Sarthe, et annonce que le chantier de construction d'une bretelle de l'autoroute A28, abandonnée depuis qu'on a découvert qu'elle menaçait une espèce protégée, va reprendre, et sous sa direction. Son enthousiasme, son énergie, son élan entraînent avec lui des dizaines de personnes. Il est accueilli à bras ouverts, tous croient à son projet, aux emplois promis, à la croissance du village. Et pendant plus de 2 semaines, raconte le Parisien, une trentaine de personnes seront embauchées, des baraques de chantier construites, des tonnes de matériaux commandés, des engins loués, un début de route est même construit. Pour ce faire, Roger Martin a réussi à trouver un financement auprès de personnalités de la région, 200 000 francs, dit-on. Mais un fournisseur soupçonneux débusque l'escroquerie et le masque tombe. Les travaux bidons s'arrêtent net. Philippe Bert, qui n'en est pas à sa première embrouille de haut vol, sera condamné en 1998 à 5 ans de prison ferme. Environ 20 ans plus tard, à Paris, dans le Marais, Cédric Naudon, lui, entraîne des dizaines de restaurateurs et de partenaires dans un projet aussi pharaonique, mais dans l'ère de notre temps. C'est un hub gastronomique éco-responsable, un concept street locavore, un lieu à vivre et à manger, bref, la jeune rue, sise dans le centre de Paris. 2 ans plus tard, Cédric Naudon est mis en examen pour escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux et banqueroute. Il est sorti de prison il y a quelques mois et il se trouve que l'une de nos productrices, Ilana Navarro, habite dans l'ex-future Jeune Rue. C'est le 2e épisode de son enquête sur ce qu'elle appelle sa rue éphémère.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Il y a 4 ans, du jour au lendemain, mon quartier est devenu le plus en vue de tout Paris. De New York à Londres, tout le monde en parlait. Un projet nommé la Jeune Rue allait transformer ma rue et les rues adjacentes en une zone de design gastronomique. Même le New York Times qualifiait le projet de futur village épicurien au cœur de Paris. Pendant 2 à 3 ans, nous, les riverains, avons baigné dans ce rêve. Puis un jour, on a appris que tout s'est écroulé comme un château de cartes. Le projet était en ruine et son promoteur, M. Cédric Naudon, en prison. Moi, j'étais soulagée de savoir que j'avais échappé à la transformation de mon quartier en réserve pour touristes de luxe. Mais quelques années après l'échec de ce projet, quand j'ai appris que M. Naudon était sorti de prison, je me suis posé la question, que va bien pouvoir devenir ma rue? Retrouvera-t-elle une vie et des commerces destinés aux habitants?
Là, on est en train de préparer des sandwichs. Les sandwichs, ici, c'est à la demande.
J'ai décidé de rencontrer d'autres riverains qui avaient suivi, comme moi, les transformations du quartier.
Après, ils choisissent les salades qu'ils veulent mettre dedans.
Et j'ai commencé par Rémi Ben Moussa, le gérant de la sandwicherie Cachère chez Isaac, l'une des seules boutiques qui n'a pas changé depuis 20 ans.
On va dire que la rue Volta, la rue Notre-Dame-de-Nazareth et la rue du Verbois, il y a encore une vingtaine d'années, c'était le quartier où il y avait tous les grossistes de vêtements pour hommes, donc à côté du sentier où justement il y avait tous les grossistes de vêtements pour femmes. Et bon, petit à petit, les fabricants ont été obligés de partir vers Aubervilliers, Pantin, en dehors de Paris. Donc en fait, il y a eu une politique de la mairie qui a préféré, si on peut dire, mettre des bâtons dans les roues à ces fabricants pour qu'ils sortent de Paris, pour qu'ils aillent fabriquer en dehors de Paris. Il y a 20 ans, il y avait au moins 20-25 pervenches qui mettaient des PV tous les jours. La rue Notre-Dame de Nazareth, elle a changé à l'époque au moins 5 ou 6 fois de sens. D'accord ? Et quand vous venez acheter, faire les courses, parce que vous avez des magasins et vous venez chez des fabricants, et que vous savez que quoi qu'il arrive, vous allez prendre un PV ou qu'on va vous enlever votre voiture, à force, vous n'avez plus envie de venir. Donc c'est ce qui s'est passé petit à petit. Et ensuite, il y a eu la mairie qui a fait ce qu'on appelle des droits de préemption sur des magasins. C'est-à-dire que si moi je vends mon magasin, la mairie a priorité pour racheter mon magasin. Et donc c'est ce qu'ils ont fait à l'époque rue Notre-Dame de Nazareth. Ils ont repris plein de locaux pour justement avoir le droit de ne pas les louer à des fabricants.
Et pourquoi vous avez décidé de rester alors ?
Bah, parce que tant qu'il y a du travail, on continue à travailler, mais c'est vrai que le quartier, il a complètement changé, la clientèle, elle a complètement changé, et notre façon de travailler a complètement changé aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque, je vous donne un exemple, mais on ne faisait pas de livraison, et aujourd'hui, 80% de notre chiffre d'affaires, ce sont des livraisons. Donc, on m'a proposé plusieurs fois de racheter mon local. La première fois, c'était à l'époque où il devait y avoir ce qu'on a appelé la jeune rue. C'est-à-dire qu'il y avait un monsieur qui avait repris plein de magasins pour justement faire des restaurants, des cafés, boucheries. Et ce qui s'est passé, c'est que apparemment le projet est tombé à l'eau. Donc le quartier, à l'époque, tout le monde misait dessus. Et donc plusieurs personnes sont venues pour me proposer de racheter le local. C'était Cédric Naudon, qui avait racheté à peu près tous les magasins. Puis bon, quand on s'est un petit peu plus approfondi, c'est à ce moment-là qu'il a été en prison.
D'accord. Vous étiez déçu de ça ou c'était quoi vos plans ?
Ben oui, parce que tout le monde pensait dans le quartier au début que ça allait prendre de l'ampleur et donc de la valeur et que le quartier allait bouger. Parce que c'est vrai que c'est pas logique qu'on soit à 200 mètres de la place de la République et qu'il y ait des rues comme ça qui soient vides et où les locaux sont toutes fermés.
J'avais beau ne pas être déçue comme M. Benmoussa de l'échec du projet de la jeune rue, j'étais aussi curieuse que lui de savoir ce qui se cachait derrière les boutiques vides de mon quartier. Depuis 15 ans que j'y habite, j'ai vu toutes sortes de magasins qui vendent des produits assez étranges, qui ouvrent, puis qui ferment 2 mois plus tard.
Il y avait cette boutique avec cette salle à manger vide, c'était ultra bizarre, on se demandait ce que c'était.
Avec mon voisin Lionel, ça nous amuse bien d'en faire le compte.
On ne savait pas très bien si c'était un concept ou un truc raté. c'est un peu étrange.
Et à côté ?
Alors c'est un bel immeuble en briques, du début du XXe siècle. Et il y a un espace en coin, c'est un type d'espace qui est plutôt très prisé commercialement à Paris, et qui est vide, alors dans lequel il y a régulièrement des espèces d'events, de pop-up, de trucs éphémères. Et alors parfois ils font un peu la fête, ils font un peu du bruit jusqu'à minuit, une fois tous les quelques mois. Et alors récemment, il y avait aussi une bande de jeunes qui étaient là, et qui, je crois, c'était une sorte d'entreprise de livraison. Mais ils sont... se sont volatilisés comme tous les autres aussi rapidement qu'ils sont arrivés.
Finalement, le projet du fameux spéculateur Cédric Naudon n'était qu'une des péripéties qu'a subi ma rue. Presque toutes les boutiques de ce fameux projet appartiennent à un seul et même propriétaire, M. Alain Smadja, qui investit dans le quartier depuis près de 40 ans.
Entrez, ils ne vont pas vous mordre.
Mais il se trouve que pendant une dizaine de jours en octobre, des gens habillés comme dans les magazines de mode paradent dans ces magasins. C'est la Paris Fashion Week. Monsieur Alain Smadja et son fils Benjamin sont là et me guident dans ce territoire étrange.
En fait, c'était le Franprix ici auparavant.
Il y a longtemps, oui. Oui, il y a longtemps. Il y a une trentaine de marques qui sont installées ici. En vous promenant dans les allées, vous entendrez parler principalement anglais et italien parce que le showroom est un showroom anglo-italien, mais la plupart des marques viennent un peu de partout, des États-Unis, de Londres, d'Allemagne, et même de plus loin. Et alors les clients, là pour le coup, c'est le monde entier. Il y a les grands magasins de Hong Kong, il y a des boutiques très pointues de Los Angeles, il y a magasins aussi à Singapour, etc. Enfin, le monde entier, des boutiques branchées, trendy, up and coming, vient faire ses courses à Paris pendant la Fashion Week, dans les showrooms du Haut-Marais de préférence, plutôt que dans les grands salons quand on voit les tentes aux Tuileries, qui eux sont un peu plus mainstream, comme on dit, c'est-à-dire un peu plus grand marché, et dans le Grand Marais, ici. Ce qui est intéressant sur ce showroom, c'est qu'il y a une offre extrêmement variée de produits qui vont du sportswear au ce qu'on appelle au urban chic, au streetwear.
Donc ici, c'est un autre showroom avec voilà, des habits exposés, on va dire, plutôt des maillots de bain ou des tenues de plage, c'est ça ?
Ici, c'est pas la mode d'aujourd'hui ni celle d'hier, c'est vraiment la mode de demain. C'est très, très, très exploratif comme mode, très créatif et on adore. En tout cas, c'est coloré et ça, c'est assez sympa. I'll be back in one hour.
Donc eux, ils sont éphémères.
Donc ça, c'est de la Fashion Week éphémère.
Donc le reste du temps de la Fashion Week, il y aura quoi ?
D'autres types d'événements, des boutiques éphémères, des lancements de produits, des événements de presse, ce genre de choses.
Nous, ce que nous faisons, c'est aménageur. C'est un mot prétentieux, mais finalement, c'est ce qu'on fait. On développe quelque chose. Alors il faut la base immobilière, heureusement, sinon on ne peut rien faire. Mais l'immobilier en soi, c'est un peu stérile. Ce qu'il faut, c'est cultiver tout le champ. Donc il faut avoir la terre, mais après il faut planter. C'est ce qu'on fait. Et rue du Verbois, ça tombe bien.
Et alors, je ne sais pas comment vous le ressentez en tant qu'habitante du quartier, mais pour nous, de faire cohabiter de l'éphémère avec du long terme, avec du pérenne, c'est pas que c'est bien, c'est que c'est indispensable pour nous. C'est indispensable.
À part nous en Fashion Week, heureusement maintenant, il y a tous les autres. Avant, on était les seuls à faire ça. Maintenant, regardez, il y en a ici, il y en a là, il y en a absolument partout. Même les nôtres, on n'a pas eu le temps de bien s'occuper. Donc certains n'ont pas encore été loués.
Sinon, vous pouvez me dire lesquels sont à vous ?
Ben, tous.
Tous, ça aussi ?
Oui.
L'ex-boutique.
Écoutez, il y a tout le trottoir de droite qu'on a voulu, on s'est battu pour l'avoir, et maintenant, ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'homogène, qui soit beau.
Vous gardez quand même le compte de combien de boutiques vous avez dans tout le quartier ?
Plusieurs. Vous voyez, je suis précis, là. Plusieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Enchantée.
Enchantée.
Michel.
Là où je vous reçois, là, chez cette dame, nous lui avons loué, c'est, par exemple, des parfums d'ambiance.
Des bougies parfumées, savons et parfums d'intérieur.
Je m'appelle Alain Smadja, je suis niçois, je suis monté à Paris. J'ai trouvé mes premiers jobs dans l'immobilier en faisant mes études d'architecte. Je suis sorti architecte, mais j'avais déjà un pied dans l'immobilier. J'ai continué à mettre le deuxième pied devant et je suis resté dans ce métier-là, qui est l'immobilier en général. Donc voilà comment j'ai commencé. J'ai commencé dans ce quartier. Ce quartier était complètement, comment vous dire, désuet, fané, sale. Voilà. Mais il y avait une attirance. Au tout début, j'ai acheté les murs d'un ancien hôtel, ici avec cet immeuble. Et puis, il y a eu d'autres occasions dans la rue Notre-Dame de Nazareth. Et puis ensuite, une rue qui m'a passionné dès le départ, mais qui était vraiment une belle endormie, qui était la rue du Verbois. Mais enfin, il fallait vraiment du temps pour développer. Et puis bon, j'ai fait mon chemin. Et des années après, après une autre expérience immobilière importante, mais ailleurs, j'ai eu l'occasion de revenir ici en disant, comme dit mon ami Kipling, tais-toi et recommence. Donc je suis revenu au début des années 2000, avec rien ou presque rien. Il a fallu tout reconstruire, mais aujourd'hui, ça va mieux. Et donc, j'ai eu la chance de vouloir réhabiliter ce quartier.
Pourquoi c'était un investissement dans les magasins ? Ou bien est-ce que
Je peux vous répondre. Non, je peux vous répondre. C'est très simple. À moins d'être un fonds d'investissement, et encore, je considère qu'il ne faut pas, dans la partie immobilière d'investissement, il ne faut pas aller acheter des appartements pour les louer aux gens. Parce que vous avez, et alors il y en a, même aujourd'hui, il y en a encore plein, vous avez des cas sociaux, vous avez des gens qui ne peuvent pas payer le loyer. Écoutez, acheter un appart pour aller voir papy, mémé et les enfants et dire lui s'y arrive, c'est pas mon truc. Donc je voulais pas le faire. Donc, alors le commerce c'est tout à fait différent. Les gens qui ouvrent un commerce, la plupart du temps, ont réellement les moyens. Voilà. Et à un moment donné, je m'excuse de la transition, mais c'est ça l'histoire. Et à un moment donné, on a un type génial. C'est moi qui le dis. C'est moi qui l'ai ressenti à l'époque comme ça, en tout cas, qui est venu avec son projet de jeune rue. Et, on y a cru. Et on n'est pas les seuls à y avoir cru. Je crois que les banques y ont cru aussi. C'est allé assez loin. Ensuite, malheureusement, je dis bien malheureusement, il a déraillé pour des raisons financières. Je pense qu'il n'a pas été suivi comme il l'escomptait avec les banques. Et à partir de là, il s'est déséquilibré, il s'est raccroché comme il a pu. Nous, on en a souffert énormément parce qu'on lui avait loué, on y a cru, hein. On lui avait loué presque tout. Face à une défaillance, les banques pouvaient admettre cette défaillance chez eux. Nous, on loyait sur presque tout ce qu'on avait dans la rue. On a failli repiquer de la tête encore. Donc ça a été un miracle qu'on s'en soit sorti. Je regrette, encore aujourd'hui, je regrette vraiment qu'il n'ait pas réussi son projet. Le type était... il s'appelle Cédric Naudon. C'est un type qui est génial. Il faut lui reconnaître les choses. C'est quelqu'un qui a bon cœur. Et c'est quelqu'un que j'ai vraiment admiré et beaucoup aimé. Et récemment, le fait de tout ça a donné des appétences à des groupes, et notamment un fonds d'investissement qui est venu nous voir en disant « Partez, on vous rachète tout, c'est bien ce que vous avez fait ». Donc on leur a répondu « Il n'y a absolument aucun problème, c'est niet, on ne vend rien du tout, on ne vous vend pas le bébé, on y tient, j'y tiens encore ». Le projet aujourd'hui qu'on a ajusté avec nos associés, c'est d'installer quelque chose qui soit et moderne et innovant, et en même temps traditionnel.
Donc ce seraient des boutiques pas éphémères ?
Surtout pas. Alors l'éphémère, il faut bien vivre, hein, entre parenthèses. Donc l'éphémère, ça permet deux choses. Ça permet de rentrer quand même un tout petit peu de loyer en attendant, mais aussi et surtout, ça permet de commencer à donner un peu de coloration pour ne pas avoir toute une série de magasins qui sont vides, 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 ad vitam aeternam, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un. Donc là, au moins, on fait clignoter.
Et voilà, l'énigme des boutiques vides est résolue. Elles clignotent pour attirer un nouveau spéculateur. Décidément, le rêve de Cédric Naudon plane toujours sur ma rue.
Et c'est ça qui est beau ici, cette rue, c'est une niche, c'est une belle princesse, mais il faut la découvrir. Non, mais c'est vrai. Je dis pas la belle au bois dormant parce que je suis pas un prince. Mais réellement, regardez, tournez-vous, regardez, c'est tellement beau. C'est hors du temps. C'est un petit morceau dans Paris, hors du temps.
En rentrant chez moi, j'allume la bougie que m'a offerte Michel, la vendeuse de parfums.
Écoutez, c'est fabriqué en France, c'est à base de laurier, d'eau rose, donc c'est un parfum d'ambiance que vous pouvez mettre chez vous.
Elle est dans une boîte où est écrit « Rue du Verbois » et le logo a été dessiné par Monsieur Smadja en personne. Le parfum au laurier de rose me détend. Je me dis qu'un jour, on dira de moi que j'étais une habitante de la rue du Verbois, marque de parfum célébrissime. En attendant, je me demande si nous, les habitants de cette belle princesse, n'allons pas devenir éphémères, nous aussi. Et je ne suis pas la seule à me poser cette question.
Là où je me suis rendu compte d'un changement, allez, on va dire radical, hein, c'est il y a 2 ans. Une partie donc, de mon immeuble a été mise à la vente. Je me suis rendu compte que l'atelier de la confection qui était en bas a subitement été mis en travaux. Et puis, une fois que les travaux ont été terminés, on a appris très rapidement qu'allait s'installer à la place de cet atelier de la confection une résidence pour Airbnb. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a vu les choses un petit peu changer, c'est-à-dire que il n'était pas rare, très fréquent, de voir, d'arriver le soir en rentrant du travail, de se retrouver avec une dizaine de personnes, ou devant la porte de l'immeuble, ou dans le hall, en train d'attendre qu'on vienne leur ouvrir, en fait, qu'on vienne leur donner les clés. On a eu droit au shooting de mannequins aussi. On a eu aussi d'autres types de shooting. Alors là, beaucoup plus vulgaire, si je puis dire, puisque là, c'était plus, j'imagine, pour des magazines érotiques. Ils étaient 3. Il y en avait un qui prenait des photos, et puis une dame, pas forcément très jeune, et puis un monsieur qui était à côté. On entendait le crépitement des flashs et puis le claquement du martinet qu'ils utilisaient. C'était ponctué par les allaitements et les cris de la dame. On a à peu près tout eu, quoi. Voilà. Hein, aujourd'hui, dans le Haut-Marais, mais combien d'Airbnb on doit avoir ? Il faudrait que je fasse l'expérience en allant voir sur le site pour savoir combien de logements sont proposés en Airbnb dans ma rue. Je pense que c'est vraiment devenu industriel, c'est-à-dire on prend des locaux commerciaux et puis on fait de la résidence hôtelière dedans. Quand l'immeuble dans ma rue a été vendu, La mairie a failli le préempter parce qu'il y a un déficit de logement social, mais avait refusé au dernier moment parce que, en fait, il y avait trop de surface commerciale au sein de l'immeuble. Bon, aujourd'hui, c'est ce qui a empêché la mairie de préempter, c'est-à-dire un local commercial. Ils ont utilisé ce local commercial pour en faire des logements Airbnb. Tout ce quartier-là, en périphérie du Marais, va devenir un gigantesque hôtel à touristes. On a déjà les boutiques vitrines. Mais voilà, quoi, les besoins de consommation primaire, non, il n'y a pas. Aller chez le coiffeur, par exemple. Aller chez le coiffeur, il faut traverser, il faut aller jusqu'à l'autre côté de la rue de Bretagne.
Et oui, avant il y avait ma coiffeuse Nacera. Mais depuis quelques mois, sa boutique a été remplacée par une agence immobilière.
Et avant, c'était ma coiffeuse ici.
Exactement, avant c'était Nacera. Donc c'était un coiffeur, on a transformé le local et on en a fait une agence immobilière. Voilà. C'est un quartier qui est très demandé, qui se développe. On reste dans le Haut-Marais, donc les prix sont encore attractifs. Alors ici, on est à peu près à 11 500 euros du mètre carré. Donc on peut aller beaucoup plus haut si c'est un bien exceptionnel.
Vous avez déjà vendu un appartement ?
Oui, la semaine dernière. Voilà, première vente de l'agence, la première semaine d'ouverture. Donc c'est plutôt positif.
Et du coup, à la location, ça coûte combien un appartement de 11 000 euros, 11 500 le mètre carré ?
Alors, à la location, ça dépend de la surface. Pour un deux pièces de 30-35 mètres carrés, il faudra compter entre 1 000 et 1 300 euros, par exemple.
Pour retrouver l'esprit de mon quartier, je décide de rechercher ma chère Nacera.
T'es belle ? Ouais, ça va, c'est très bien. J'aime bien.
Je la retrouve chez elle, quelques rues plus loin, dans un petit appartement qu'elle a transformé en salon de coiffure.
Ouais, tu plaisantes ou quoi ? 45 kilos, non mais pas bien. Ah oh ben oui, 50.
Ah, t'as
oui, tu te rappelles pas, 58.
Il y a 9 ans.
Il y a 9 ans, hein.
Bah, c'est mon tour maintenant.
Ok, vous êtes bien installés, ça va ? Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On les coupe, on coupe un petit peu derrière, on refait le dégradé, un peu comme on fait d'habitude, l'effet boule, tout ça, on coupe un petit peu, la mèche sur le côté, ça vous va comme ça ?
Oui, carrément, la okay. Mèche sur le côté, l'effet boule, tout ça, okay,
c'est
parfait.
C'est parti, on veut shampoing ?
Shampoing, alors expliquez-moi comment ça marche.
Ben, j'ai vu un petit coin à côté du fauteuil, on a mis une petite chaise au niveau du lavabo. Et il y a ce genre de bas qui sont gonflables. Là, je peux gonfler, dégonfler. Quand je veux le transporter avec moi, je le dégonfle. D'accord. C'est en plastique, c'est pratique. Hop, on attache autour du cou et ça fait un petit bac. Donc, c'est pas non plus le truc super, super à l'aise, mais pour un petit shampoing rapide, ça va. Les clients se plaignent pas trop. Donc, je m'appelle Nacera. J'ai 36 ans. Donc, je suis venue m'installer dans le quartier rue Turbigo il y a à peu près 9 ans. J'ai ouvert mon salon de coiffure. J'avais des employés. On était 3-4 à travailler au départ. Et petit à petit, tout a un petit peu changé. Tout est devenu un peu plus dur. Tout est devenu. Et donc, du coup, prendre des employés, c'est devenu de plus en plus compliqué. Et j'ai dû travailler toute seule pendant un moment. J'étais locataire. C'était un loyer à 1 1500 euros par mois.
C'est très cher, les loyers. Vous ne vous rendez pas compte des loyers qu'il y a dans ce quartier. C'est devenu des fous. Non, mais c'est très cher. Moi, c'est par hasard que j'habite là-bas, hein. Je suis venue, j'avais 12 ans. Et après, on est resté. Autrement, c'est une catastrophe.
Il fallait aussi déposer aller chercher sa fille à la crèche à 17h30. Quand on n'a pas d'employé pour rester dans le salon, ben, on doit fermer le salon. Les clients qui voient un salon fermé, forcément, ben, ils vont ailleurs. Donc, il y a aussi ça aussi qui fait qu'ils vont perdre pas mal de clientèle. Et voilà, c'est un engrenage, finalement. Ça s'est passé que j'ai décidé de vendre. Et une agence s'est rapprochée de moi. Et de là, vu que son prix était intéressant, j'ai vendu. Mais je pense déjà à m'y réinstaller dans un an ou deux. J'ai demandé à un des fils Madja pour l'une des boutiques qui était fermée sur la rue du Verbois. Mais je n'ai pas eu de réel retour et que pour l'instant, il ne pouvait rien faire. Qu'il y avait déjà une boutique éphémère là-bas. Donc,
Et puis ça devait... Voilà.
Les charges à payer.
Et là, dessus, c'est normal.
Tu as vu la couleur, on dirait que tu as des mèches.
Ouais, mais toujours. Hein. Toujours. On faisait même des soirées
oui,
de mèches.
Tu te rappelles, les soirées oui. Mèches
oui, soirées mèches, on était 5-6 et puis elle nous faisait. On mangeait et tout. Hein, on
faisait du riz, des chips.
Non, non, c'était très bien.
Donc c'était un peu une vie de quartier en fait.
Voilà, c'était. Ouais. C'était une coiffeuse de quartier. Nassera, t'as compris ? Il faut revenir.
Faut revenir, bah ouais, bah...
Dans mon quartier, je connais toutes les boutiques, toutes les crèmeries, tous les petits bistrots, le coin des rues où il y a de la musique.
Je ne sais pas si Nassera reviendra. Je me dis que peut-être bientôt, nous les riverains du Haut-Marais, allons devenir des spécimens folkloriques d'un décor de cartes postales.
Je pense que d'ici quelques temps, toi et moi, on devrait être payés pour jouer les habitants typiques. Ce sera comme un village Potemkin et nous, on sera les personnages. On sera les vrais habitants. Je pense que c'est ça ce qui va se passer parce que il y a de moins en moins de familles. Il y a quelques HLM qui font qu'il y a des gens avec des enfants qui sont là, mais c'est complètement artificiel. Il y a quelques célibataires qui peuvent se payer les loyers délirants du quartier. Il y a quelques personnes qui ont acheté, mais puis sinon, il y a des apparts Airbnb avec des gens du monde entier qui viennent vivre une fausse vie de Parisien. Et voilà.
Sur les maisons, à chaque fenêtre, une chanson. Dans tous les cœurs, il y a de l'amour, des tas de poèmes pour ceux qui s'aiment. Moi, des soucis, je n'en ai plus. Quand je me promène dans ma rue.
Maru, éphémère, deuxième épisode, c'était un reportage d'Ilana Navarro réalisé par Cécile Lafont. Merci à Rémi, Ben Moussa, à Alain Smadja, à Benjamin Smadja, à Lionel Guérin, à Jean-Jacques, à Nassera et à Alex Dang. C'est Jeanne Delocroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Camille Richir, notre stagiaire.